peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme. C'est quoi, Jean-Yves ?
Le cheval, bien sûr.
Le cheval, bien sûr, une émission proposée par Michel Clément avec la complicité de Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et c'est tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, malgré le temps, en selle pour 25 minutes ?
Oui, en selle pour 25 minutes et surtout, et puis prêt pour le salon du cheval à la fin de la semaine.
Et prêt pour le salon du cheval à Paris à la fin de la semaine. Alors on va commencer par prendre le mot homo. Tiens, alors aujourd'hui on va parler du cuir.
D'actualité d'ailleurs.
C'est d'actualité absolument. Alors justement, nous nous souvenons toutes et tous de la chanson d'Alain Souchon, « Je veux du cuir ». Alors le cuir, justement, l'irremplaçable matière première utilisée pour confectionner les selles, les brides et les différents harnachements avec lesquels on équipe les chevaux. Une matière naturelle, souple, solide, imperméable, agréable au toucher, ce qui est bien, dont le parfum inimitable contribue pour beaucoup au charme de l'équitation. C'est vrai que ça sent bon le cuir. Une matière quasi inusable si on prend la peine de l'entretenir régulièrement. Alors ça, tout le monde ne le fait pas forcément. À telle enseigne qu'en Camargue, par exemple, et ça Jean-Yves, tu connais bien ça, selles et brides souvent transmises dans les héritages servent à plusieurs générations de gardiens.
Ah, bien sûr, le sodin, c'est important.
Absolument. Une longévité donc remarquable si l'on songe aux conditions dans lesquelles ce matériau en Camargue donc est utilisé quotidiennement dans les manades. Projection d'eau saumâtre, hein, c'est de l'eau saumâtre, griffure en traversant les buissons, il y a pas mal de buissons épineux en Camargue. Parfois contact avec les cornes des taureaux, ça arrive, ça bachouche un peu comme on dit là-bas.
Et pour toi, pourquoi on dit toujours cuir et non pas peau ?
Alors justement, c'est ce qu'on va voir. Alors effectivement, le cuir, ça résiste aussi aux températures torrides en été ou glaciales en hiver. Enfin vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors par expérience, et le cavalier de Camargue le sait bien, seul un harnachement confectionné dans du cuir de bonne qualité peut tenir le coup, effectivement. Il sait aussi que le cuir, matériau vivant, se nourrit. Ça, c'est l'expression consacrée. On nourrit le cuir, hein, comme on nourrit un enfant. Alors évidemment, pas avec des graisse issue de la pétrochimie, hein. Jean-Yves, toi, ce que tu aimes bien, tu sais, juste bonne pour graisser les chevaux vapeur, hein. C'est pas tellement tes chevaux,
non,
ça.
Pas du tout.
Voilà. Mais en utilisant les bonnes vieilles recettes qui ont fait leur preuve, recettes à base de saindoux de porc et d'huile de pied de bœuf.
Et tu sais pas quelle est la meilleure graisse?
Alors dis-le-moi, Jean-Yves.
La graisse de blaireau.
Ah oui.
Le blaireau, elle passe à travers tout, travers les pores, et c'est vraiment une graisse exceptionnelle.
D'accord. Et ça doit donner un fumet particulier.
Ah ben oui, bon le blaireau,
ça ben, le blaireau, ça sent le blaireau,
c'est
quoi.
C'est son outil de défense, hein.
Voilà, exactement. Bon, mais ceci dit, les cavaliers n'en sont pas à ça près, hein, je veux dire. Et en plus, ces graisses naturelles, ça permet d'avoir une bonne adhérence sur le cuir, alors que les graisses artificielles, ça rend le cuir glissant.
C'est
quand même pas très bien. Alors le mot cuir vient du latin corium, qui veut dire la peau des animaux ou des hommes, hein, ou l'un ou l'autre, en admettant que l'homme n'est pas un animal. Alors mot forgé à partir d'une racine indo-européenne qui signifie en fait couper, séparer. Et effectivement, si on y réfléchit bien, la peau est ce que l'on peut détacher assez facilement du corps d'un animal ou même d'un homme, comme du reste les Aztèques, par exemple, le faisaient lors de la fête de leur dieu Chipetotec, au cours de laquelle des prisonniers de guerre étaient écorchés vifs.
Oh là là, c'était pas rigolo, ça.
Et les prêtres ensuite prenaient la peau de ces pauvres suppliciés et se la mettaient sur le dos. Alors, par analogie, cuir est à l'origine du mot écorce. L'écorce qui est en fait le cuir de l'arbre, hein. Et c'est vers la fin du XIIe siècle qu'il prend dans notre langue son sens actuel de peau préparée et tannée. Donc, c'est pas si vieux que ça, XIIe siècle, hein. Son sens premier de peau humaine a décliné à partir du XVIIe siècle, sauf dans une seule expression toujours utilisée actuellement dans notre langue, le cuir chevelu. On parle du cuir chevelu.
Oui, mais le cuir était quelque chose de médicinal. La peau de l'ours, la peau du loup, tout ça, c'était exploité à des fins de médicaments.
Médicaments, c'est ça, absolument. Alors, aussi, le cuir, par exemple, on l'utilise pour la verrerie, on l'utilise dans pas mal de choses aussi. Hein,
absolument.
Alors, cuir est également à l'origine du mot cuirasse, bien sûr, dans la mesure où cette partie de l'armure était à l'origine, donc faite en cuir et renforcée de plaques de métal.
Ah, oui.
Voilà, la cuirasse. Un peu dans le même esprit, le mot a été repris par les motards, hein, mais ça c'est un peu du cheval vapeur, hein, même si ça a que deux roues, hein, ces nouveaux chevaliers de la route, hein, pour désigner le vêtement censé les protéger en cas de chute et leur éviter de trop sévères écorchures. Et un cuir est aussi une faute de langage à l'origine de l'expression qu'utilisait déjà Rabelais, donc c'est pas tout jeune, en son temps. Donc écorcher un mot, quand on dit on a écorché, ah ben zut, j'ai écorché un mot. Moi ça m'arrive souvent pendant l'émission d'écorcher les mots. Enfin, dans le langage de la chasse à courge, Jean-Yves, alors ça tu connais bien, cuir a donné le mot curé. Hein, la curée de campagne, curée, si l'on veut. Et qui consiste donc à quoi? C'est quoi une curée?
Ben, c'est égorger l'animal, lui sortir les boyaux et le faire manger aux chiens qui l'ont poursuivi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on étale la peau de l'animal et voilà. Puis on met dessus les boyaux, les tripes, les bas morceaux et effectivement, les chiens qui ont participé.
Et on lâche les chiens, on jette dessus et voilà. Se remplissent le ventre. Voilà.
Donc, on voit que le mot cuir a donné quand même pas mal de sens différents. Alors, aujourd'hui, dans le grand sujet, on va parler d'un personnage, d'un écuyer dont on a fait la connaissance donc la semaine dernière, qui s'appelle Monsieur Montfaucon de Rogle. Il a écrit un traité d'équitation donc sous le règne de Louis XV et ce traité a été réédité par son frère quelques années après sa mort. Voilà. Alors dans ce traité, à l'opposé de ceux de ses prédécesseurs, si l'on excepte celui de François Robichon de la Guérinière, évidemment, la Guérinière, le grand
c'est
la Guérinière,
la référence,
des traités qui prônaient la manière forte, donc les prédécesseurs, donc ils prônaient la manière forte pour réduire les chevaux à l'obéissance. Hein, je veux dire, là, ça rigolait pas, le cheval d'intérêt à marcher droit. Et Montfaucon de Rogle s'attache au contraire à instruire le cheval, il le dit bien.
Il se rapproche de l'éducation.
Absolument, pas à pas, sans se presser, aux airs les plus difficiles de la haute école, sans violence, en développant à la fois les aptitudes physiques de l'animal, tout en respectant son moral, son envie naturelle de bien faire. Cheval, c'est vrai, quand il est bien, il a envie de bien faire.
Mais Xénophon avait déjà parlé de ça.
Et Xénophon, bien sûr, avait parlé de ça. Alors, les premières leçons données au jeune cheval doivent se faire, alors je vais beaucoup citer Montfaucon de Rogle, donc les premières leçons, lui, données au jeune cheval doivent se faire monter l'animal tenu en longe. Bon. Alors, Montfaucon de Rogle sait qu'un poulain n'est toujours incurvé, donc ça, il l'a remarqué, soit sur son côté droit, soit sur son côté gauche.
C'est la forme qu'il a dans le placenta.
Voilà, dans le ventre de sa mère. Voilà, absolument. Et les premiers exercices ont pour but de le mettre droit, ce cheval. Alors, l'écuyer y consacre un chapitre entier, tant cette première condition est pour lui la clé de voûte indispensable pour la suite. Sans elle, en effet, le cheval ne pourra jamais progresser.
Alors, ils ont toujours un côté plus adroit que l'autre.
Un côté, ben comme nous, on est droitier ou gaucher, ouais, hein, voilà, on est rarement ambidextre. Ouais. Hein, voilà. Alors, Montfaucon écrit, alors je le cite, « Pour mettre un cheval droit, il est essentiel de se rendre maître de ses épaules. Et comme on ne peut le faire, ainsi que je l'ai remarqué, sans l'obéissance à l'effet des rênes et à celle des jambes, il est de toute nécessité de laisser le jeune cheval à la longe, jusqu'à ce qu'il ait acquis ses connaissances. » Voilà, les connaissances aux aides. Ouais. Alors, mais quelle allure utiliser ? Montfaucon de Rogle préconise le trot et il nous en donne l'explication. Alors, pourquoi le trot ? Ben, il dit « La leçon de trot a toujours été regardée avec raison comme celle dont les chevaux pouvaient retirer le plus de fruits. Premièrement, parce qu'ayant à cette allure deux points d'appui continuels, l'un sur une jambe de devant, l'autre sur le postérieur, diagonalement opposés, leur base devient plus solide qu'au galop. Parce que le galop, il y a un temps qui est sauté. »
Et j'ajouterais que c'est la seule allure où le cheval fixe son balancier. Alors que pour le pas, il se sert de son balancier d'une façon régulière et le galop aussi. Alors que trot, il fixe son balancier,
absolument. Alors, Montfaucon continue en disant, en second lieu, parce que le trot, par la nature de ses mouvements, oblige les chevaux, plus qu'à l'allure du pas, à déployer leurs muscles, à les fortifier, à procurer plus de liant au ressort, et rend ainsi plus facile et plus prompte la distribution des forces nécessaires à chaque action. Donc, lui, il est vraiment pour le travail au trot.
La mise en main, en principe, se faisait toujours au trot, oui. On peut la faire au pas aussi, également. Mais la mise en main, c'est le cheval qui tend ses rênes, qui va en avant et qui se fixe et qui est obéissant à la jambe et à la main.
À la jambe et à la main, absolument. Alors, l'écuyer concède que le travail des jeunes chevaux au pas et au galop peut également donner de bons résultats. Il reste néanmoins ferme dans sa conviction et il argumente, hein. Il a des arguments, Montfaucon. Alors, il dit, cela ne m'empêchera point d'assister pour qu'on exerce beaucoup plus les jeunes chevaux au trot, surtout lorsqu'il s'agit de les débourrer et de les assouplir. Mais pour Montfaucon, on le fait pas n'importe comment. Et donc là, il expose sa méthode. Et il dit, une fois le cheval au trot, on ne le laissera pas aller trop vite, ce qui le mettrait sur les épaules. Pour cela, il faudra utiliser des demi-arrêts et lui rendre souvent la main. Par ce moyen, on éveille la sensibilité de la bouche de l'animal, et ce qui sans cela s'échaufferait, évidemment, enfin ce qu'on appelait à l'époque s'échauffer, c'est-à-dire le cheval va se battre contre la main, s'engourdirait peut-être au point que le cavalier ne serait plus maître de son cheval. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il pense. Mais en même temps, souligne l'auteur, il faut créer et entretenir en permanence l'impulsion par l'action des jambes afin, dit-il, d'obliger l'animal à porter ses hanches sous lui pour se soutenir et éviter qu'il prenne appui sur son mors. Donc pour lui, tout ça est lié.
La recherche est la même pour tous, hein. C'est l'élévation des épaules et de l'abaissement des hanches. Hein.
Oui. Et alors, tu trouves pas ça quand même assez moderne, hein, je veux dire, hein.
Ben si, ça rapproche un peu de notre conception.
Voilà, ça s'en rapproche un peu. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'est quand même un grand pas en avant, je veux dire.
Il y a la morphologie du cheval qui est importante aussi.
Il y a la morphologie du cheval qui est importante. Il en parle beaucoup dans son traité en disant que bon, il y a certains chevaux.
Parce qu'il y a des chevaux qui sont prédisposés à certaines allures et à certaines attitudes.
Et le cheval barbe en particulier, qui est, je dirais, naturellement équilibré, hein.
Bien sûr.
Voilà. Alors, on va se quitter quelques minutes voilà, pour nous accorder une pause musicale avec Alain Souchon. Alors on a commencé avec le cuir et Alain Souchon chante « Je veux du cuir ».
Je veux du cuir, un peu de pichou.
Montfaucon de Rogue l'a bien compris que le cheval, si l'on veut le faire accéder aux aires les plus difficiles de la haute école, doit être entraîné de façon progressive, raisonnée, jamais empirique. On parlerait aujourd'hui d'un entraînement d'athlète de haut niveau. En fait,
oui,
le cheval, c'est un athlète de haut niveau.
Sans jamais le blaser, c'est important.
Sans jamais le blaser. Alors, pour le grand écuyer, les leçons doivent être relativement courtes, justement. Tu vois, vous êtes du même avis, hein, tous les deux. Montfaucon nous en donne le tempo. Alors, il dit, après quelques tours dans le manège au trot, on arrêtera le cheval. Alors, il parle d'un jeune cheval, hein, pour l'instant. On arrêtera le cheval pour changer de main. Ensuite, on le reprendra, toujours au trot, pour exécuter le même exercice. On finira la séance au pas, dans le cas et on le ramènera à l'écurie. Les jours suivants, on répétera la même leçon jusqu'à obtenir un petit trot régulier. Une fois qu'il y sera parvenu, on poussera son trot insensiblement à mesure qu'on sortira le cheval plus assis. Et l'écuyer donne ce conseil, on se rendra compte qu'il n'est pas assis s'il cherche à fuir ou s'il pèse sur la main. Ces deux derniers défauts, précise-t-il, sont si naturels aux chevaux que pour peu qu'on relâche son attention, ils en prennent vite l'habitude. Alors autrement dit, il ne faut pas s'endormir à cheval, mais rester attentif, en permanence à l'écoute de son partenaire. Et Montfaucon de Rogle, pour être bien sûr d'être compris, enfonce le clou. Là, vraiment, il insiste. Pour lui, ça lui tient à cœur. Et c'est pourquoi, affirme-t-il, je conseille, lorsqu'on dresse des chevaux, qu'on revienne sans cesse sur ses pas. Quand on a cru que le cheval était assez avancé pour exiger de lui quelque action nouvelle, et qu'on voit qu'elle lui coûte par la contrainte où elle le met... il faut revenir au point d'où on était parti. Voilà.
Et laisser réfléchir le cheval.
Voilà. Et Carré, il ajoute, car il est certain que si les chevaux ne répondent pas à la première tentative et que malgré cela on passe à la seconde, ils seront tout aussi maladroits à la troisième et à la quatrième et peut-être même plus qu'avant à la première, parce qu'on aura beaucoup trop exigé d'eux.
Bien sûr.
On les aura usés sans s'en apercevoir, en leur faisant exécuter des mouvements pour lesquels ils sont obligés d'employer beaucoup de force pour compenser leur manque d'équilibre. Équilibre. En réalité, on croit les avancer, dit-il, alors qu'on les retarde beaucoup, parfois même de façon irrémédiable.
C'est-à-dire, il y a un proverbe qui dit « qui va doucement, va vite avec une quittation ».
Oui, oui, tout à fait. Alors, Montfaucon de Rogue conclut ce chapitre avec cette dernière recommandation. Il est démontré, dit-il, qu'un cheval ne peut agir librement que s'il est dans un parfait équilibre. Or, cet équilibre ne peut exister que lorsque ses hanches se trouvent exactement sur la ligne des épaules. Et il martèle une fois encore cette règle fondamentale en équitation. On pourrait même ajouter, en fait, pour toutes les équitations, y compris les équitations de travail, il est indispensable, dit-il, de mettre toute son attention à contenir son cheval droit.
Mais je t'arrête, Michel, parce que toutes les équitations, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule équitation. La vraie, celle où tu es en accord, en harmonie avec le cheval. Donc, on fait qu'un.
C'est vrai, Jean-Yves, tu as raison de me reprendre. Alors seulement, donc, pour Montfaucon de Rogue, il sera possible, si toutes ces conditions sont réunies, c'est-à-dire d'abord, il insiste, dès le début de son traité, le cheval droit. Première chose, le cheval droit, et ensuite on verra. Donc, il sera possible de mettre le cheval sur les hanches par une action souple et flexible de ses postérieurs qui s'engageront sous lui et pourront soutenir son poids, avec pour conséquence d'alléger son avant et lui permettre de se porter instantanément et rapidement dans toutes les directions demandées par son cavalier, y compris la marche arrière.
La boule,
absolument. Comme une boule, on la pousse n'importe où, elle va dans la direction où on la pousse, immédiatement. Alors en revanche, Montfaucon de Rogue le met en garde contre la méthode qui consiste à bloquer le cheval sur son mors, au besoin en cisaillant sa bouche, tout en le poussant énergiquement avec les jambes. Pour l'écuyer, cela consiste à ruiner physiquement et moralement le meilleur des chevaux.
Qui est nocif, voilà. Et qui tue.
Exactement. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Montfaucon de Rogle, qui a vécu à peu près un siècle avant Baucher, condamne déjà, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la méthode de l'effet d'ensemble. Voilà. Alors, la leçon de l'écuyer, ta leçon, Jean-Yves, la maîtrise de l'épaule en dedans, c'est un peu, pour le cheval, son baccalauréat.
Mais l'épaule en dedans, c'est le secret de la réquestre, parce que donc on lui demande de s'assouplir de partout, de se grandir dans les épaules et d'abaisser une hanche. Donc que le cheval qui est bien dans l'épaule en dedans, quand il a une contraction quelque part, il faut toujours revenir dans l'épaule en dedans. C'est le secret de la réquestre. C'est l'assouplissement, c'est l'acceptation, c'est le oui de tout le corps.
Et ça, c'est vrai que ça avait été peut-être je crois que la première fois qu'on voit vraiment les pollens dedans mis au niveau où tu viens de le dire.
Mais c'est une gymnastique de trois pistes.
Voilà,
les pollens dedans,
c'est
ça veut dire quoi?
Parle,
ça veut dire faire rentrer les pôles en dedans de la piste. Parce qu'autrefois, on s'attachait beaucoup d'importance à la piste. Mmh. Et encore, en dressage, on s'attache beaucoup à la piste. Parce qu'à part la piste, on peut tout savoir. Si le cheval marche droit, s'il est calme, il va marcher droit. S'il se méjuge, enfin, on peut tout savoir à la piste. La piste, c'était quelque chose d'important. Tout le monde connaissait la piste. Le dernier des petits sauvages, le dernier des petits indiens connaissait la piste. Il savait à la piste tout ce qui se passait sur la terre. Parce que c'était comme ça, c'était une science.
Il avait l'habitude ils avaient l'habitude d'observer.
Voilà, dans les pôles en dedans, le cheval est sur trois pistes. Il croise devant, il s'incurve, il fait rentrer les pôles en dedans de la piste, et il chevale derrière. Et il se prépare pour les airs d'école comme ça, voilà. Il abaisse les hanches, il monte les épaules, et il se prépare pour les airs d'école. Il dit oui.
Il dit oui. Alors, le dicton de la semaine, c'est le suivant. La pierre qui fonde l'équitation a un nom, la confiance réciproque entre un cheval et son cavalier.
Ah oui, c'est un dicton. Il y a tout un livre à faire sur ce dicton. Donc, je crois que là, c'est une polémique. Là, tu me poses une colle parce qu'il faudrait commencer par le début et terminer par la fin.
Est-ce que, par exemple, un cavalier qui n'a pas confiance,
confiance
en son cheval, ça ira loin?
La confiance, c'est ce qu'on doit demander en premier. Tant qu'il n'y a pas de confiance, qu'il y a appréhension, le cheval se méfie. C'est un cheval qui survit par la fuite et par la crainte. Alors, donc, il faut qu'il ait confiance pour se donner et pour créer ce désir de communiquer entre l'homme et lui-même. Donc c'est indispensable. Sans confiance, il ne peut pas y avoir progrès, il ne peut pas y avoir progression, il ne peut pas y avoir, disons,
un accord
parfait entre l'homme et le cheval.
Alors c'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous mercredi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins d'une histoire fabuleuse, l'histoire de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux mais confiant, en tout cas on l'espère, et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui.
Non pour s'en servir, mais je le répète et à plus fort, mais pour le servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles.
À la semaine prochaine et bravo à nos chevaux.
Merci Jean-Yves. Ciao, ciao.
Chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Et ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. capitale du roer de Rhodes, entrez dans la lande de la route du Seine.